France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. La police de Hong Kong encerclait hier soir des centaines de manifestants qui se sont retranchés dans un campus universitaire. Depuis ce week-end, les affrontements font craindre une confrontation sanglante entre forces de l'ordre et contestataires. Dans un communiqué, la police de la région administrative spéciale menace en effet de riposter à balles réelles. Et cela si les émeutiers, est-il écrit, utilisent des armes létales et commettaient de nouvelles violences. Un policier hier a été blessé par une flèche sur un campus universitaire. La confrontation est toujours en cours. En Irak, des milliers de personnes ont envahi les rues hier, répondant à un appel à la grève générale. Ils soutenaient les manifestants qui réclament un changement de régime depuis plusieurs semaines maintenant. Le mouvement est émaillé de violences là aussi, violences qui ont fait au moins 330 morts et près de 15 000 blessés. Notons également cette foule au Liban, un mois jour pour jour après le début du mouvement de contestation contre une élite politique jugée corrompue. Élite qui ne parvient pas à former un nouveau gouvernement après la démission du premier ministre libanais Saad Hariri. L'actualité française, c'est aussi cette contestation populaire. Les Gilets jaunes se mobilisaient ce week-end un an après le début de leur mouvement. Samedi, des violences ont éclaté à Paris et en région, menant à 254 interpellations, dont 173 à Paris. Hier, des rassemblements ont eu lieu dans le calme, dans la capitale notamment. De nombreux Gilets jaunes appellent à rejoindre maintenant le mouvement du 5 décembre prochain, journée interprofessionnelle contre la réforme des retraites. Le ministre de l'économie se dit ouvert à une éventuelle reprise de la dette des hôpitaux. Bruno Le Maire le disait hier, il souligne toutefois la nécessité de donner aux hôpitaux les moyens de fonctionner correctement. Il faut mettre le paquet sur l'hôpital et nous ne compterons pas nos efforts, a-t-il dit. 3 jours après la mobilisation nationale des personnels, c'était jeudi dernier un peu partout en France.
Nouveau sur France Culture, la transition se conjugue au quotidien avec Hervé Gardette.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, nous savons tous désormais à quoi nous sommes confrontés. Mais nous ne savons pas toujours quoi faire, ni comment. Pourtant, nos modes de vie sont en train d'être bouleversés par ce basculement. Tous les jours, dans les matins de France Culture à 8h45, je vous livre mes observations, mes réflexions et je vous fais part de mes lectures dans la transition.
Nouveau sur France Culture, la transition de lundi à vendredi à 8h45 dans les matins et sur franceculture.fr. Histoire, autrement sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Cette semaine, nous parlons cinéma et histoire, parce que le cinématographe est à la fois un objet historique et un vecteur d'histoire et de mémoire. Du Japon au Chili, en passant par la France, comment le cinéma écrit-il une histoire nationale?
Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Sur France Culture, pour bien commencer la semaine à 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem pendant une demi-heure.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le réveil culturel. C'est ouvert tous les jours de la semaine, tôt le matin à la radio ou quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou par l'abonnement au podcast disponible entre autres sur franceculture.fr. Corinne Amar à la coordination, Vincent Abouchard à la réalisation. Ce matin, la prise de son, Élise Le. Il y a 60 ans, le 25 novembre 1959 exactement, disparaissait Gérard Philippe, une des icônes du cinéma français de l'après-guerre. Il avait 36 ans, il était l'acteur de théâtre et de cinéma le plus populaire du pays. Gérard Philippe était tout à la fois Fanfan la Tulipe, Le Cid, Valmont, Le Prince de Hambourg, Julien Sorel, Caligula... Et surtout, un héros français mort jeune et en pleine gloire. Dans son dernier livre, Jérôme Garcin raconte le dernier été et les derniers jours de Gérard Philippe d'une manière intime et délicate à la fois. Comme le titre du livre, beau et sobre, Les derniers jours du Cid, récemment paru dans la collection Blanche de Gallimard.
Le réveil culturel. Lundi, livre.
Bonjour Jérôme Garcin.
Bonjour Toufik.
C'est un cancer du foie, foudroyant d'ailleurs, qui va mettre fin prématurément à la vie et à la carrière de Gérard Philippe. Fauché comme une alouette en plein ciel, écrivez-vous dans ce livre consacré à ses derniers jours. Pourquoi Gérard Philippe ?
Pourquoi Gérard Philippe ? Pour deux raisons essentielles. D'abord parce que c'est un peu l'aboutissement de ce que je fais depuis 25 ans, c'est-à-dire raconter des vies brèves, avec la conviction que plus elles sont brèves, plus elles sont pleines. Mon premier livre était sur Jean Prévost, un résistant qui est mort dans le Vercors à 40 ans. Et puis après, il y a eu mes proches, mon frère jumeau, renversé par une voiture à 6 ans, mon père, etc. Et puis, Gérard Philippe est un peu l'icône de ce destin bref. Et s'y ajoute, vous attendez à
cette réponse, oui.
Une raison personnelle, c'est que j'ai épousé en 1977 la fille de Gérard Philippe, Anne-Marie Philippe, et que j'ai attendu aussi le jour où elle m'a dit « voilà, tu peux y aller » pour oser écrire ce livre, parce que c'est évident que j'avais des raisons morales de m'inquiéter davantage de ce livre que des autres.
Est-ce à dire, Jérôme Garcin, que vous avez vécu avec le fantôme de Gérard Philippe ?
Surtout, moi j'ai toujours écrit... Moi, je suis très inspiré par les lieux. Je crois que c'est les lieux qui parlent en premier. Et c'est vrai que d'avoir vécu longtemps à La Roulière, dans cette maison de Ramatuelle, où Gérard et Anne passaient leurs étés, où à nouveau j'ai vu nos enfants, Anne-Marie et à moi, grandir dans cette maison. J'ai vu Anne, la veuve de Gérard, prendre par la main notre fils aîné, Gabriel, pour aller au fond du vallon. J'ai très longtemps été aux côtés d'Anne, rue de Tournon. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Anne-Marie un jour. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans cette maison qui n'avait pas changé, dans cet appartement de la rue de Tournon qui n'avait pas changé.
C'est-à-dire qu'il était très présent, Gérard Philippe.
Il était présent partout, c'était plus qu'un fantôme, c'était une incarnation. À Cergy, dans le parc de Cergy, qui était l'autre maison du couple et de la famille, j'ai vu Anne-Marie lire longtemps après Le Temps d'un soupir, le livre de sa mère. Donc tous ces lieux me parlent énormément. Évidemment, le cimetière de Ramatuelle où Gérard Philippe est enterré. Et donc, moi, je crois qu'on écrit... Évidemment que ce livre, si on est très strict et un peu littéral, est un roman, puisque je n'étais pas dans cette clinique Violet où il a été hospitalisé avant de mourir. Et d'ailleurs, la clinique a disparu. Mais en revanche, rue de Tournon, à Cergy, à Ramatuelle, la présence de Gérard Philippe est absolument incroyable, sans compter, évidemment, ces lieux qui marque l'histoire du théâtre, que sont de Chaillot d'une part, et puis surtout le Festival d'Avignon et la Cour d'honneur.
Le dernier hiver du site, c'est aussi un choix. Vous avez décidé de raconter Gérard Philippe, mais à partir de ses derniers jours. Pourquoi, Jérôme Garcin ? Est-ce que parce qu'une fois qu'il se sait malade, une fois qu'il rentre à l'hôpital, c'est la dimension humaine qui l'emporte sur le symbole qu'il a incarné à l'époque ?
Moi, je crois toujours que ce sont les derniers instants qui sont peut-être les plus éloquents pour raconter la vie de quelqu'un. Dans le cas de Gérard Philippe, le choix de ces derniers jours, de ces dernières semaines, tient aussi au fait, et vous l'avez rappelé en préambule, tient au fait que cette jeunesse de Gérard Philippe était incroyable. 36 ans, c'est l'âge aujourd'hui de notre fils aîné, de Gabriel. Et quand je vois ce qu'avait fait Gérard, c'est-à-dire ce qu'il avait fait au cinéma, vous l'avez rappelé également, au théâtre, même s'il n'y a pas de traces ou quasiment pas de traces, ce qu'il avait fait avec des enregistrements qui sont devenus légendaires, qui ont passé les générations de Pierre Loup ou du Petit Prince, on est incroyablement frappé par cette précocité, cette jeunesse qui d'ailleurs explique, à mon avis, la prolongation du mythe. 36 ans, c'est rien. C'est rien. Et pourquoi ces derniers jours ? Parce qu'il s'est passé quelque chose qui est de l'ordre presque de la tragédie grecque. C'est-à-dire que il a été, quand vous disiez, Toufik, qu'il se savait malade, oui, il savait qu'il avait des problèmes de santé.
Mais jusqu'au bout, il va croire à, effectivement, une guérison.
En tout cas, après que le médecin a ouvert et refermé, en novembre 59, la vérité que seul savait Anne, Philippe, et ce médecin qui, par hasard d'ailleurs, mais est-ce que c'est un hasard, j'y crois pas, était mon oncle, mon grand-oncle, ils ont fait le choix de ne pas dire à Gérard la vérité, c'est-à-dire le nombre très limité de jours qui lui était compté, Et donc, ce qui lui a permis aussi, pendant quelques jours, de rêver une autre vie après ce qu'il pensait être une convalescence ou un rétablissement, c'est-à-dire rêver des rôles, rêver des pièces, rêver des films. Et le 25 novembre, il est mort presque dans son sommeil, retournant.
Jérôme Garcin, c'est un roman ou c'est une enquête? Je veux dire que tous ces personnages que vous convoquez à son chevet, est-ce que ce sont des gens qui étaient vraiment là, les derniers jours de Gérard Philipe, ou parce que c'est votre choix de romancier, de parler que des gens qui ont vraiment compté dans la carrière de Gérard Philipe, et selon vous, d'après vous?
Alors écoutez, c'est très clair. Effectivement, je vous le disais, la fiction s'installe là où je ne sais pas. Je n'étais pas dans cette clinique, encore une fois, j'étais pas davantage rue de Tournon dans les derniers instants. Maintenant, je m'approche le plus possible de la vérité. La plaque minéralogique du corbillard qui emmène le corps de Gérard à Ramatuelle, c'est vraiment le numéro. Les lettres de Perros, de son grand ami Georges Perros à Gérard Philipe, sont des lettres que j'ai fait publier il y a quelques années aux éditions Funitide. Ce sont vraiment les mots de Gérard, les mots de Georges Perros, les textes, ça c'est très important, les textes de Ripide et d'autres auteurs qu'il a annotés à la veille de disparaître.
On pense en ligne, on peut le dire. Hein.
Y compris pour certaines pièces, pour moi dans 20 ans. Tout ça est vrai. Son rêve, son aspiration à devenir Hamlet, dans ce qui aurait été sa deuxième vie, ou le Doran du menteur de Corneille, ou même ce qu'avait proposé Villars, c'est-à-dire de devenir enfin Don Juan de Molière, tout ça est vrai. Ce qui entoure Gérard dans ces derniers instants, le couple formé par René Clair et sa femme Bronia, je les ai tellement bien connus que je sais qu'ils étaient là. Pierre Velay, qui a mis au monde l'accoucheur d'Anne-Marie et d'Olivier, des enfants de Gérard et Anne, mais aussi celui de nos enfants à Anne-Marie et à moi. J'ai passé un temps fou à parler des derniers instants de Gérard avec lui. Donc c'est un roman, mais qui est tellement proche de ce que je pense être la vérité, que ça se situe pour moi à la frontière du récit et du roman.
Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Gérard Philipe, Jérôme Garcin?
Il représente quelque chose qui a disparu totalement, c'est-à-dire comment être un acteur à l'époque, non pas, comme vous le disiez, nationalement connu, mais mondialement connu. La mort de Gérard Philipe le 25 novembre 1959
a été
un événement mondial.
Dans les théâtres du monde entier, à Moscou, à New York, partout.
Mais les télés ont toutes fait les ouvertures de leurs journaux de l'époque avec cette disparition. Et comment, avec une telle gloire, une telle notoriété, disons, continuer à devenir un comédien humble. Il était sur les affiches, il était placé par ordre alphabétique avec le même cachet que ses partenaires de théâtre. Il passait le temps qu'il ne passait pas sur les plateaux de tournage ou sur les plateaux du TNP. Il les passait,
en tant que bon syndicaliste, à défendre la profession.
Ça, plus que ça, à créer le syndicat des acteurs. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, le statut des intermittents du spectacle existe. Son souci syndical n'était pas simplement un souci de s'occuper davantage, c'était de servir les autres. C'était le grand mot, le grand verbe du TNP et de l'époque, c'était servir.
Alors, c'est l'homme engagé ou c'est le comédien populaire
qui... C'est un tout. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui quelqu'un qui d'abord incarne à ce point le rôle, la beauté du statut de comédien, aussi bien sur scène, dans le subventionné absolu d'ailleurs, que dans le cinéma le plus populaire, qui était le cinéma de Carnet, de Clair ou d'Autant Lara à l'époque, et en même temps étant à ce point engagé, non seulement, on l'a dit, pour le syndicat, mais dans le monde entier. Il était compagnon de route. Il n'était pas, comme on l'a écrit partout, communiste, mais il était compagnon de route. Il travaillait pour le mouvement de la paix. Ce modèle-là, pour moi, a totalement disparu, avec en plus une manière de préserver sa vie intime, même s'il n'y avait pas à l'époque de réseaux sociaux, qui est absolument admirable. Sa famille, ses enfants, passaient avant tout. Il a toujours refusé qu'on s'introduise dans cette vie-là. Et ça, il y avait un respect pour cet homme qui a en plus, il faut le dire, sinon on ne comprend rien à la mythologie de Gérard Philipe, incarné un renouveau de la France dans les années d'après-guerre. Ce pays sortait abîmé, sali, coupable d'un nombre incroyable d'exactions, je ne parle pas le mot de collaboration. Il était humilié, il s'était mal conduit dans son ensemble. Et tout d'un coup, on avait un ange, au sens propre, l'ange de Sodome et Gomorre, qui apparaissait dans toute sa jeunesse, qui avait été en plus, qui avait participé au combat de la libération de Paris, fusil à la main, et qui incarnait, d'une certaine manière, une jeune France que la vieille France de l'occupation avait envie de voir et avait envie d'aimer et d'admirer.
Et 7 ans après sa mort, en 1966, Jean Villard, depuis la cour des papes d'Avignon, évoque Gérard Philipe dans ce document. Il évoque aussi bien l'acteur flamboyant que le citoyen militant.
Philippe est arrivé à la 5e année, il devait avoir 25, 26 ans à peu près. Il avait déjà une réputation d'acteur de théâtre, une très grande réputation d'acteur de théâtre. Il était évidemment parmi les jeunes d'alors, considéré comme le plus doué, et en plus, avait commencé d'une façon assez somptueuse, disons, sa carrière cinématographique. Je le cite toujours en exemple, c'est pas par complaisance à l'égard d'un disparu, mais c'est parce que quand je fais à un certain nombre d'années de distance, le relevé des rapports humains qu'il y a pu y avoir dans cette cour, soit à travers le TNP, soit avant le TNP, soit après, puisque je ne suis plus directeur du TNP, il y a tout de même parmi d'autres, bien sûr, au stade administratif, au plan administratif, comme administrateur, comme artiste, comme technicien, Gérard a été un de ceux qui se sont le plus dévoués, non pas seulement à bien jouer, à bien mettre en scène, à bien éclairer, etc., etc., mais un de ceux qui, dès le premier jour, ont eu la mission populaire que l'État nous avait confiée, et qui était vraiment une mission. La première des choses que nous devions faire, de par notre cahier des charges au sein du TNP, c'était de faire venir dans notre salle, non pas l'élite, non pas les gens fortunés, mais d'abord ceux qui, peut-être, sont éloignés des questions artistiques, esthétiques, etc. Et surtout faire en sorte que l'art ne soit pas considéré par certaines classes défavorisées comme une chose qui ne leur appartient pas, mais au contraire, une chose qui leur appartient.
Gérard Philipe, comédien populaire.
Comédien populaire dans la mesure où, comme Villard,
oui, comme un engagement.
Il a épousé l'engagement de Villard, c'est-à-dire servir le public, faire venir le plus grand nombre.
C'est les belles années de TNP, il faut rappeler maintenant ce que c'est que le TNP.
Faire venir le plus grand nombre, voir ce qu'il y a de plus beau. TNP, Théâtre National Populaire, qui est beaucoup plus qu'un théâtre, c'est une idée follement démocratique, follement réussie. À l'époque, il arrivait à Gérard de jouer dans le même week-end, pendant des week-ends de Suresnes, où venait le public le plus populaire qui soit, de jouer dans le même week-end des rôles-titres, comme Lorenzaccio, Le Cid, ou Hombourg. C'était absolument inimaginable, même pour un comédien d'aujourd'hui, d'avoir un tel texte dans le même week-end. Le but était, encore une fois, de refuser l'idée que la culture, c'est un héritage qui se transmet chez les gens bien de génération en génération. Au contraire, ce métier n'avait de sens pour eux que s'il faisait découvrir la beauté, l'absolue beauté du théâtre à ceux qui n'y ont pas été initiés.
Il y a aussi des ambiguïtés dans la vie de Gérard Philipe, ou du moins ce qui nous apparaissent aujourd'hui comme des ambiguïtés. Comment ce héros aimé par la France, ce héros qui a participé à la libération de Paris, pouvait être aussi le fils très aimant d'un père qui était du mauvais côté de l'histoire, qui était un collabo, qui était obligé de quitter la France pour se réfugier dans l'Espagne du dictateur, pour échapper justement à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a commis pendant l'occupation.
Mais c'est pas une ambiguïté de Gérard Philippe, en tout cas.
En tout cas, il aimait son père, c'est ce qu'on apprend en lisant votre livre, Jérôme Garcin.
Ce qui est très beau, c'est qu'effectivement, il a été condamné à mort par contumace, le père, Albert Philippe, pour affairisme pendant l'occupation, entre autres. Et c'est vrai qu'il est, et donc il est parti s'exiler en Espagne. Et malgré tout, le héros résistant et jeune homme de gauche qu'était Gérard Philippe n'a jamais été infidèle à son père. Il continue à aller le voir à Barcelone, dans son appartement. Il ne lui a jamais craché dessus. Ça ne veut pas dire qu'il lui a pardonné son attitude. Mais en tout cas, il a même pensé à coucher son père sur son testament. C'est sûr que je pense que ça explique aussi, en partie le parcours idéologique de Gérard Philipe. C'est aussi, s'il a été loyal à son père, en revanche, il s'est construit, je pense, politiquement, en opposition à ce père.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Les derniers jours de Gérard Philipe, le dernier hiver du site, pour reprendre le titre de votre ouvrage, Jérôme Garcin, édité chez Gallimard. Et bien sûr, cette musique n'a pas été choisie au hasard. On est dans l'intimité, là, d'un couple.
C'était leur musique, celle qui les soudait. C'est un couple magnifique. Pour avoir beaucoup connu Anne, l'avoir entendu me parler de lui, j'ai le sentiment, et avoir... fait du temps d'un soupir, qui est le livre qu'a écrit Anne, ma petite bible personnelle, je ne cesse de penser à ce couple comme un couple presque idéal. Et il faut savoir que au-delà des sentiments, au-delà de l'amour fou, elle a eu un rôle sur sa carrière dramatique mais primordial. Elle l'a conseillé, elle l'a poussé à choisir plutôt l'exigence que la facilité. Je pense même que l'arrivée tonitruante de Gérard Philipe au TNP de Villars, c'est-à-dire ce TNP à la fois austère et flamboyant, doit beaucoup, et d'abord à Anne Philippe. Je pense que si il avait vécu, elle aurait eu un rôle encore plus grand dans les choix qu'il a fait de films et de pièces.
Columbia Film SA aura le plaisir de vous présenter pour la première fois ensemble Michel Morgan, plus émouvante que jamais, et Gérard Philipe qui a trouvé l'occasion de montrer une nouvelle face de son talent dans un film d'Yves Allégret, Les Orgueilleux.
Vous signez de rester tranquille?
Non.
Alors Georges, lève-toi les mains.
Il faut bien que ce soit pour vous, ma petite dame. Une belle grâce comme ça. On est pour 8 jours à la refaire.
Tourné dans un petit port du golfe du Mexique, ce film, riche en contrastes, retrace l'aventure de Nelly, une jeune veuve, et de Georges, une locumène, une pauvre épave imbibée d'alcool.
Le jeune premier transformé en locumène, Jérôme Garcin, vous qui avez écrit que Gérard Philipe avait révolutionné l'interprétation française de l'héroïsme, modernisé le jeu classique, rendu actuel des tragédies révolues, et surtout à la fois consacré et subverti la tradition de la poésie dramatique. C'était pas seulement le charmant jeune premier qui plaisait tant aux femmes, Gérard Philipe.
Ah, je pense que...
Il y avait cette dimension, mais dans ce film d'Allégret, c'est vraiment une locumène.
Une locumène parasée, ivre-mort toute la journée, qui avec une scène incroyable où il danse pour obtenir une bouteille. Il danse ivre-mort pour avoir son comptant d'alcool, mais... Moi, je suis de ceux qui pensent que même parasé, même apparemment ivre-mort, il gardait dans ses yeux une lumière et une beauté absolument incroyables. Vous savez, pour ce qui est du théâtre, c'est davantage ce qu'on m'a raconté que ce que l'on sait, puisque moi je fais partie de ceux qui sont nés, moi j'avais 3 ans quand il est mort, et donc je n'ai pas pu, aucun de nous d'ailleurs ne peut avoir accès aujourd'hui au théâtre de Gérard Philipe, puisque le principe que vous connaissez de Jean Vilar, qui était d'ailleurs un très beau principe, même si moi aujourd'hui je le regrette, était que on ne capte pas, il y avait beaucoup de captations de théâtre dans les années 50, on ne capte pas une pièce, le spectacle vivant est fait pour des spectateurs vivants, et donc on ne le met pas dans une boîte, principe au nom duquel, à part quelques enregistrements audio très 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 mal écoutables, un peu grésillants, il n'y a aucune image. Il n'y a aucune image de ce qu'a été le Cid ou Lorenzaccio. Et donc, il ne reste que le cinéma. Et comme le cinéma, on ne le voit plus, parce que les films... Là, pour le coup, ma génération a pu voir les films de René Clair ou de Autant Lara ou de Marcel Carnet dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, ça ne passe plus. Quant à la télé, elle a cessé depuis longtemps de diffuser ces films en noir et blanc, sans compter qu'il y a eu depuis des remakes aussi exécrable que le Fanfan la Tulipe version Vincent Pérez, qui est presque gênant quand on se souvient de l'original.
Vous voulez dire que ce livre, c'est un dernier adieu à Gérard Philipe disparaître du coup?
C'est une manière de... Vous savez, il va disparaître... c'est les 60 ans, vous l'avez rappelé, le 25 novembre de la disparition de Gérard Philipe. J'étais, comme tous les ans, au Festival d'Avignon cette année. Festival d'Avignon que Gérard Philipe incarne encore aujourd'hui. Il n'y a même pas un petit événement, une causerie, une soirée pour rappeler que c'était les 60 ans de sa disparition. Dans la cour d'honneur, il n'y avait rien, 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 rien. Donc vous savez, l'amnésie collective, elle va à une vitesse foudroyante. Je pense que évidemment, le cinéma n'est plus... Les 25-30 ans aujourd'hui ne savent plus qui est Gérard Philipe. Alors je ne dis pas que c'est... Je pense que la mythologie perdure pour d'autres raisons. Pas forcément les plus éloquentes, la jeunesse de sa mort, le personnage physique qu'il a, cet éternel beau jeune homme qu'il a incarné, mais l'œuvre théâtrale et cinématographique de Gérard Philipe, elle est inaccessible quasiment pour notre jeune génération.
Pourquoi ? Parce que son jeu serait daté ?
Ah, pas du tout, je crois pas. Je pense pour les raisons que je vous ai dites avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder au théâtre, on ne peut quasiment plus accéder au cinéma, et il nous reste Pierre et le Loup et Le Petit Prince en CD tous les ans réédité, mais c'est très très rare. Et je pense en plus que le jeu très particulier de Gérard Philipe, effectivement, ne pourrait passer que si la qualité du son était ce qu'elle était quand on le vivait en direct.
Et pour terminer, qui sont, d'après vous, Jérôme Garcin, les dignes héritiers de Gérard Philipe? On peut parler d'Alain Delon, on peut parler de Jean Dujardin, plus proche de nous.
Non, parce que je n'en vois aucun qui soit de cette patte-là, c'est-à-dire à la fois théâtrale et cinématographique, ce qui n'est pas le cas des deux que vous avez cités, Dujardin et Delon, et encore moins étant à la fois au théâtre et au cinéma et engagé comme il l'a été. Je ne vois pas l'équivalent de cette personnalité absolument atypique qu'a été Gérard Philipe.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Revisiter toute la vie, toute la carrière de Gérard Philipe à partir de l'intimité de ses derniers jours. C'est ce que nous propose dans son dernier livre Jérôme Garcin, Le dernier hiver du Cid. On se met même à rêver des films qu'il n'a pas tournés, des films qu'il aurait pu tourner. On imagine par exemple Gérard Philipe dans le rôle de Meursault dans cette adaptation de L'étranger, puisque c'était un projet de Jean Renoir. Et finalement, il se fera des années plus tard, réalisé par Visconti avec Marcello Mastroianni. Le dernier hiver du Cid, c'est édité chez Gallimard, je le rappelle. Merci Jérôme Garcin d'être passé ce matin.
Merci à vous, Toufik.
Sur France Culture, dans un instant, les informations de 6h30, à suivre le journal des idées de Jacques Munier et les enjeux internationaux de Julie Gacon. France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque jour sur France Culture, le magazine sans frontières, Culture Monde, Florian Delorme.
Dans Culture Monde, nous nous intéressons aux fractures régionales et aux velléités autonomistes qui agitent le monde sur tous les continents. On ira d'abord en Espagne pour parler des indépendantistes catalans. Nous ferons un crochet au nord de l'Europe, au Royaume-Uni, pour nous interroger sur l'identité britannique. Puis cap sur la Nouvelle-Calédonie, puisque la date du prochain référendum est maintenant connue. Et enfin, dernière étape, l'Éthiopie, où le peuple Sidama se prononcera par référendum sur son destin.
Du régionalisme à l'indépendantisme, qui est in, qui est out, Culture Monde, de lundi à vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Les éditions Radio France présentent le livre d'Éric Orsenna, Beaumarchais, un aventurier de la liberté.
Que dire de sa vie ? Elle est la vie même. Un mouvement perpétuel, un feuilleton jamais ralenti, une folle journée pour reprendre le premier titre de son mariage de Figaro.
Plongé dans l'itinéraire hors du commun de cet écrivain qui incarne le XVIIIe siècle et s'autorise toutes les libertés. Beaumarchais, un aventurier de la liberté, d'Éric Orsenna, un livre et un livre audio France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des milliers d'Irakiens dans les rues hier, une grève générale contre le pouvoir et des regards qui se tournent maintenant vers l'ayatollah Sistani. Son portrait dans ce journal. Nous irons ensuite à Dakar, où Édouard Philippe a remis aux autorités sénégalaises hier un sabre, restitution d'œuvres culturelles, mais est-ce seulement un affichage ? Nous poserons la question. Et puis nous reviendrons sur la mobilisation des Gilets jaunes ce week-end, un an après la première manifestation. Ils s'organisent localement, vous l'entendrez. La révolte populaire ne faiblit pas en Irak, avec une grève générale très suivie ce week-end. Les autorités de Bagdad semblent incapables de répondre aux revendications des manifestants, répondant en fait par la force. 330 personnes ont été tuées en un mois et demi. Dans cette situation explosive, l'ayatollah Ali Sistani apparaît comme l'une des rares personnalités qui a encore la confiance des manifestants, Christian Chesneau.
L'ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite d'Irak, est une personnalité énigmatique. Le vieux religieux, au visage émacié, qui vit dans un logement modeste de la ville sainte de Najaf, ne s'exprime jamais publiquement et pourtant, sa parole, diffusée par ses proches ou par des communiqués, est la plus scrutée dans le pays depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Ce n'est pas étonnant que depuis le début du mouvement de révolte populaire, les regards se tournent vers l'ayatollah Sistani, référence morale en Irak, analyse Houcham Daoud, chercheur au CNRS.
Sistani reste écouté par la population irakienne, respecté. Au départ, il disait « il faut apaiser la chose, il faut préserver les biens publics, il faut moins de violence ». Aujourd'hui, il tire davantage sur le gouvernement et il dit « la répression est insupportable ». Il n'y a pas de justice. Il faut une autre politique. Et la classe politique dans son ensemble est corrompue.
L'ayatollah Ali Sistani est aussi paradoxal. Il est né en Iran, mais il incarne une forme de nationalisme irakien, une vision de la religion à l'opposé de celle de la République islamique, poursuit Houcham Daoud.
Il est très, je dirais, vu avec méfiance côté Iran. Sistani est davantage avec un parlement pluraliste, alternance de pouvoir, et puis avec une armée professionnelle et contre la milice. Chose qui est tout à fait le contraire qu'on le voit en Iran. On voit en Sistani une légitimité qui conteste la mainmise iranienne dans la région.
Et forcément, du côté de Téhéran, on apprécie guère cet esprit indépendant dont l'influence étant bien au-delà de l'Irak.
Là, en revanche, il n'y a pas de médiation en vue. À Hong Kong, la situation se tend un peu plus ce matin. Des manifestants pro-démocratie ont incendié l'entrée du campus hongkongais où ils sont actuellement retranchés pour empêcher une intervention de la police. Elle menace de son côté de répondre avec des balles réelles aux armes létales des protestataires. Hier, un policier a été blessé au mollet par une flèche tirée par un manifestant. Pour la première fois depuis le début de la contestation sociale au Chili maintenant, le président Sebastián Piñera a condamné les violences perpétrées par les forces de l'ordre contre les manifestants. Il reconnaît un recours excessif à la force. 22 personnes sont mortes depuis le 18 octobre dernier, un conflit qui a donc débuté il y a très exactement un mois. Et si le gouvernement a accepté de modifier la constitution chilienne, les manifestants demandent maintenant des réformes en profondeur, notamment sur le système de retraite qui est entièrement privatisé à l'heure actuelle. Le Premier ministre français est au Sénégal pour ouvrir le Forum international sur la paix et la sécurité. L'occasion pour Édouard Philippe de participer également à la restitution de certaines œuvres africaines. Il a ainsi rendu officiellement un sabre hier aux autorités sénégalaises, Yannick Falt.
Le chant funèbre des Peuls est joué par l'orchestre des forces armées sénégalaises. La cérémonie de restitution du sabre a lieu au palais présidentiel. Le sabre d'El Hadj Oumar Tall, pris par les troupes coloniales françaises en 1893 dans l'actuel Mali. Un butin de guerre exposé à Paris, musée des colonies, puis musée des Invalides, et désormais à Dakar, dans le musée des civilisations noires.
Sa place est bel et bien ici. Ce sabre symbolise un épisode important de l'histoire du Sénégal et de ses pays voisins. Il symbolise aussi, y compris dans son caractère guerrier, l'amitié, le respect, l'admiration réciproque qui unissent aujourd'hui nos peuples.
Un geste salué également par Macky Sall, le président sénégalais, deux discours à l'unisson devant la famille d'El Hadj Oumar Tall, dont Aissata Tall Sall, une députée descendante de l'ancien chef de guerre.
Ce sabre devient le symbole de relations post-coloniales plus qu'apaisées entre la France et le Sénégal. Nous saluons le geste du président Macron qui a compris que dans notre identité, les symboles, les objets avaient une place à part.
Reste que c'est la troisième fois que le sabre est prêté. Les deux fois précédentes, il est revenu en France. Pas question cette fois-ci, assure l'exécutif. Mais le sabre fait partie des collections nationales et il faut un vote de l'Assemblée pour entériner la restitution.
C'était Yannick Falt pour France Culture. Les Gilets jaunes ont fêté hier le premier anniversaire de leur mouvement social, un an jour pour jour après leur premier week-end de mobilisation. Et après les violences de samedi, les rassemblements se sont faits dans le calme hier, excepté l'éruption d'une trentaine de manifestants dans les galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris. Selon un bilan communiqué hier soir par la préfecture de police, 13 personnes, dont un mineur, étaient toujours en garde à vue hier soir. Un an après, comment ce mouvement des Gilets jaunes a-t-il évolué? Nous avons posé la question à Emmanuelle Rungotz, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier. Elle mène une enquête sur les Gilets jaunes depuis le début du mouvement et elle était ce week-end sur un rond-point.
Le moment fin novembre, début décembre, c'était vraiment le moment des ronds-points, où les ronds-points étaient des lieux très très importants, assez innovants et assez stratégiques de la mobilisation. C'était des lieux de socialisation où on venait, on se rencontrait, on venait avec son récit personnel et puis on tissait un récit commun, des identités communes, qui permettait aussi de construire des revendications. Les Gilets jaunes, ils sont arrivés avec la revendication sur le prix de l'essence et puis ils ont développé des revendications progressivement sur les injustices fiscales, sur les inégalités sociales et puis des revendications sur le système politique. Donc ça a permis en partie la politisation du mouvement, la structuration de ces revendications. Puis les ronds-points ont été détruits, en tout cas les occupations ont été détruites par les forces de l'ordre, souvent en décembre ou janvier. Ça correspond aussi au moment où les assemblées essayent de se structurer. Donc c'est un mouvement qui va sans doute être intéressant à suivre là dans les semaines et les mois qui restent, aussi à l'échelle locale pour voir comment ça impacte. Il y a des associations qui se créent. On a vu des collectifs par exemple qui parfois mettaient en place des choses très concrètes, des jardins partagés, de la permaculture, des marchés paysans. Alors c'est pas toujours durable, mais parfois ça l'est. Donc c'est une manière de dire que c'est intéressant de suivre sa structuration à l'échelle nationale, s'il y a une coordination qui va se mettre en place ou pas. Mais c'est sans doute à l'échelle locale aussi que ça a impacté.
Et certains Gilets jaunes préviennent déjà, ils se mobiliseront avec les syndicats le 5 décembre prochain. Et mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. C'est l'une des raisons de la colère des personnels hospitaliers, la dette des hôpitaux publics. Eh bien, le ministre de l'économie n'est pas fermé à ce que l'État la reprenne. Bruno Le Maire le disait hier sur un plateau de télévision. Le gouvernement, par ailleurs, doit présenter un plan d'action pour les hôpitaux ce mercredi. La semaine européenne de réduction des déchets débute avec des ateliers, des animations un peu partout en Europe et notamment en France pour sensibiliser la population au tri et à la consommation. Ce week-end, à Paris, dans le 14e arrondissement, des ateliers ont déjà eu lieu. Atelier où s'est rendu Adrien Paluet.
Sur le stand de l'association Ataram, Rachida s'essaye à un petit jeu.
Pot de yaourt, là, terre cuite.
Bon, ça, c'est un piège, parce qu'il n'y en a pas souvent des pots en terre cuite, mais bon.
Des petites cartes plastifiées symbolisent chacune un déchet qu'il faut placer devant la bonne poubelle.
Je me suis bien débrouillée, j'ai eu deux fautes. C'était intuitif au début, et puis pour juste deux vignettes, ben là, j'ai dû poser une question.
Rachida a hésité, mais ce n'est pas le cas des plus jeunes, selon Julie Mouret, présidente de l'association Ataram.
Les enfants sont beaucoup plus sensibles et informés sur ces questions-là. Et c'est souvent eux qui vont montrer aux parents « Ah ben non, tu vois, en fait, ça se jette dans cette poubelle-là. Ah oui, ça, on peut s'en servir pour faire ça. »
D'ailleurs, en face, Karima regarde le stand de troc avec son fils.
Qu'est-ce qui t'intéresserait, Samuel ?
Le camion ? Celui-ci ? Tiens. Et voilà. Il est à toi.
Et en échange du camion, Karima va elle-même déposer des livres et des vêtements. Une démarche positive selon elle.
Il n'y a pas d'argent en jeu, donc ça facilite mieux les échanges et les relations entre les gens. C'est un moyen populaire vraiment de réunir les gens.
Le stand Soupe Disco porte lui bien son nom. Les membres de la République des Hyper Voisins ont préparé une soupe avec des légumes invendus tout en musique. Nicole est membre des Hyper Voisins.
C'est ce que l'on cherche, hein, qu'ils soient contents et puis qu'ils s'habituent à cette idée qu'il ne faut plus jeter, quoi. Il faut éviter de jeter. Si on ne va pas chercher les légumes, ils ne vont pas non plus organiser eux-mêmes, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens. Donc c'est aux gens de le faire dans les quartiers. Je pense que tout le monde peut le faire, ce genre de truc, c'est sympa.
Depuis la rentrée, la mairie du 14e accompagne l'initiative Zéro Déchet dans le quartier.
C'était un reportage d'Adrien Paluet pour France Culture. Le temps en ces débuts de semaine sera maussade sur une grande partie du pays, humide sur le nord-est avec quelques chutes de neige sur la Bourgogne-Franche-Comté ce matin et de la pluie également sur le quart sud-est ainsi que sur la Corse. Pour les températures, Météo France annonce 4 degrés ce matin à Besançon, 7 à Rennes, à Bordeaux et à Lyon, 8 degrés à Paris et à Lille, 13 degrés dans la matinée à Nice. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Il est 6h40 et c'est l'heure sur France Culture de votre journal des idées. Nous l'évoquions il y a quelques minutes Jacques, les Gilets jaunes ont célébré l'anniversaire de leur mouvement par une nouvelle mobilisation ce week-end.
Et oui, et ça suscite déjà des commentaires. Dans le Figaro Vox, Jérôme Sainte-Marie et Jérôme Fourquet échangent sur ce sujet, donc à partir de leur vision respective de la société française, que le premier voit se polariser sur le plan sociologique et électoral en deux blocs qui ne recouvre pas l'ancien clivage gauche-droite, quand le deuxième parle d'une forme d'archipélisation, de fragmentation des opinions. Mais Jérôme Fourquet concède que dans le mouvement des Gilets jaunes, deux France se font face de manière très symbolique, avec des soutiens des Gilets jaunes émanant du bas des classes moyennes qui défilaient samedi après samedi dans les beaux quartiers des grandes villes sous les fenêtres de la France qui va bien. Pour Jérôme Sainte-Marie, ce phénomène est allé bien au-delà des mécontentements qui l'ont fait naître. Il a développé un véritable instinct de classe, aussi bien chez ses partisans que parmi ses détracteurs. Selon lui, la mobilisation a révélé un groupe social bien particulier, non pas les classes populaires en général, mais les actifs du privé, salariés d'exécution, petits commerçants, petits artisans, c'est-à-dire ceux qui vivent difficilement de leur travail quand ils ne sont pas au chômage et se trouvent dans des positions sociales subalternes. Et ça fait du monde, un monde pas syndiqué, mal encadré politiquement, donc naturellement émietté, une situation que reflète la forme de sa mobilisation à travers toute la France et les ronds-points. Une dispersion géographique, malgré le caractère assez homogène de ce milieu, dans son niveau de diplôme et de revenus, ainsi que dans la précarité de sa condition. Dans Les Échos, Elsa Fresnay cite Jérôme Fourquet à propos de la convergence des luttes à l'approche de la journée de mobilisation du 5 décembre. Elle ne s'est pas fait au pic du mouvement des Gilets jaunes. Alors pourquoi se ferait-elle maintenant? Mais l'auteur de L'Archipel français met en garde sur la réforme des retraites. Même si tout oppose à première vue les deux mobilisations, des travailleurs précarisés du secteur privé versus des professions à statut, des publics syndicalisés contre des gens se défiant des corps intermédiaires et de tout mécanisme de représentation. Sauf que ces dernières semaines, les confédérations sont souvent dépassées par leur propre base et les chercheurs font état d'acteurs communs aux deux mouvements. La sociologue Magali Dellassouda, qui a coordonné une étude de 1500 questionnaires remplis sur les ronds-points et en manifestation, rappelle qu'il y avait beaucoup de fonctionnaires de catégorie C et de col rose, infirmières, aides-soignantes ou aides à domicile. Les professions qui craquent aujourd'hui étaient déjà mobilisées hier, estime-t-elle. C'est pourquoi l'Assemblée des Assemblées des Gilets jaunes a appelé à rejoindre la mobilisation du 5 décembre. Magali Dellassouda souligne aussi l'influence des femmes très présentes dans le mouvement et porteuses d'une forte exigence de solidarité ou de justice intergénérationnelle. Elles se sentent forcément concernées par la réforme des retraites. Sur le site AOC, Laurent Jean-Pierre s'interroge sur l'avenir politique du mouvement dans la perspective des municipales. Il évoque la présence de certains leaders locaux ou nationaux dans des liste partisane ou encore citoyenne. Mais c'est surtout la tentative de structuration à l'échelle du territoire national qu'il analyse, notamment l'Assemblée des Assemblées qui s'est tenue début novembre à Montpellier et qui a rassemblé 600 délégués venus de 200 ronds-points. Les trois journées de discussion ont été conclues par un appel à rejoindre les cortèges le 5 décembre. Et sur le plan politique, un projet se dessine qui cherche à instaurer des assemblées citoyennes indépendantes des partis et à prendre la commune pour instaurer une démocratie directe, rendre la totalité du pouvoir de décision aux habitants au sein d'assemblées communales, de RIC locaux, etc. L'autre motif de mobilisation concerne la répression inédite que les Gilets jaunes ont subie, avec 11 morts et plus de 2500 manifestants blessés, dont 24 éborgnés, 5 mains arrachées. On ne dira jamais assez que l'année passée représente la séquence protestataire la plus violente depuis celle liée à la guerre d'Algérie. L'hebdomadaire Le 1 a rassemblé en un volume les nombreuses contributions dans ses pages sur les Gilets jaunes depuis un an. Alexis Lévrier revient sur la question de l'écho médiatique du conflit. On sait les relations difficiles entre ce mouvement, on est sur les réseaux sociaux et les grands médias, où les propos maladroits, clivants et ouvertement condescendants de certains éditorialistes ont pu renforcer un sentiment de mépris. Mais la mise en spectacle des violences urbaines a tendance à reléguer le message politique dans une sorte de coproduction où chacun prend sa part. Une attitude plus responsable à cet égard fait aussi partie des objectifs. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous Julie Gacon, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, vous nous parlez du Forum pour la sécurité en Afrique qui s'ouvre ce matin au Sénégal et qui sera largement consacré au Sahel.
Oui, cette réunion annuelle est encore toute récente. C'est à la fois le Sénégal et la France qui, en 2013, se sont promis de mettre en place un rendez-vous régulier afin de débattre des stratégies mises en œuvre par les pays africains pour faire face aux attaques terroristes. Au Sahel, ces stratégies nationales sont soutenues par l'armée française avec l'opération Barkhane, la force conjointe G5 Sahel et la MINUSMA, la force de maintien de la paix, avec ses 10 000 casques bleus. Un déploiement massif qui n'a pas empêché que l'insécurité se soit non seulement intensifiée, mais aussi étendue dans la région, depuis le Mali jusqu'au Burkina Faso, jusqu'au Niger, au Tchad. Pourtant, en 2015, des accords dits de paix avaient été signés à Alger, entre le Mali et de nombreux groupes armés sous l'égide de l'Union africaine, avec le concours de l'Union européenne et de la France. Alors pourquoi ces accords ont-ils échoué? Bonjour Nicolas Normand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur de France dans plusieurs pays d'Afrique, notamment au Mali, au Sénégal, au Congo. Vous avez publié récemment le grand livre de l'Afrique aux éditions Erol et vous êtes aujourd'hui très critique de cet accord d'Alger signé en 2015. D'abord, qui était convié à prendre part à ces négociations?
Alors en fait, dans l'accord d'Alger signé en 2015, il n'y avait pas les principales forces hostiles, notamment les groupes djihadistes étaient exclus de l'accord d'Alger. Donc cet accord était signé essentiellement avec les groupes armés séparatistes, aussi d'ailleurs en fait, même si on ne le disait pas, des groupes armés narcotrafiquants, et aussi curieusement les groupes armés qui étaient pro-Bamako et qui se battaient eux-mêmes avec les groupes armés séparatistes. Donc il y avait trois pôles dans les signataires, les groupes séparatistes, les groupes loyalistes et le gouvernement de Bamako.
Réunis dans la coordination des mouvements de la Zawad. C'est ça, et les djihadistes voilà, en étaient exclus. Ils n'ont pas été conviés ou ils n'ont pas voulu participer?
Les deux, je pense, mais en pratique, ils n'ont pas été conviés et on pensait les isoler. On pensait qu'on allait simplifier le paysage, disons, des groupes armés en isolant complètement les djihadistes et ensuite en se concentrant sur eux.
Donc on a d'abord exigé des groupes armés qu'ils ne s'attaquent plus à l'armée malienne, mais en échange de quelle contrepartie?
Alors effectivement, le seul aspect positif véritable de l'accord d'Alger, c'est que ces différents groupes armés séparatistes en particulier ne s'attaquaient plus à l'armée malienne. En contrepartie, on leur donnait toute une série d'avantages. Le premier avantage, c'est que ceux qui avaient occupé la ville de Kidal, avec l'assentiment de l'armée française, qui avait empêché l'armée malienne de rentrer dans la ville de Kidal, qui est une grande ville du nord du Mali, eh bien, on les laissait à Kidal, on leur donnait le pouvoir à Kidal. Donc, en fait, on maintenait une espèce de séparatisme qui avait pour nom un projet d'autonomie. Ils ne voulaient plus officiellement quitter le Mali, mais être autonomes simplement. Et deuxième contrepartie, c'est que leurs combattants devaient être intégrés progressivement dans l'armée et sinon dans l'administration ou au moins dans la dans la vie, on devait leur fournir un emploi. Et encore un autre avantage, c'est que tant que ce processus n'avait pas abouti, ces groupes armés avaient le droit de circuler en gardant leurs armes. Ils n'étaient pas désarmés. Donc finalement, ça faisait beaucoup d'avantages et de contreparties qui étaient données. C'était dû au fait que l'armée malienne a signé cet accord en position de faiblesse. Elle avait été battue deux fois par ces groupes armés, en 2012 et également en 2014, lorsque le Premier ministre du Mali avait cherché à aller à Kidal en disant, au fond, Kidal appartient quand même au Mali et je vais faire une visite sur place. À ce moment-là, toute sa délégation avait été assassinée par le MNLA, qui était un groupe séparatiste. Et du coup, l'armée malienne était intervenue en légitime défense et avait été battue donc une deuxième fois en mai 2014.
Nicolas Normand.
En 2015, l'armée malienne était très faible et en plus la pression internationale était très forte sur le Mali pour qu'il signe un accord avec ses groupes. D'où des concessions quand même très importantes qui ont été faites à ces groupes armés.
Leur fournir un emploi, une place dans l'administration, c'est quelque chose qu'on a entendu par exemple récemment dans les enjeux internationaux en ce qui concerne la Centrafrique. C'est quelque chose de réaliste et est-ce que ça s'est fait surtout ?
Alors effectivement, le Mali n'était pas le seul pays à la Centrafrique. Avant, il y avait la RDC. Donc c'est assez habituel de signer des groupes, des accords avec des groupes armés en leur faisant des concessions. Moi, je pense que c'est une mauvaise méthode parce que souvent, ça perpétue ces groupes armés. Ça leur donne un statut d'égalité pratiquement, de partenaire avec l'État. Ça leur donne un encouragement aussi vis-à-vis des populations qui n'ont pas pris les armes, c'est-à-dire la majorité de la population locale. Cette population voit bien que les groupes armés ont gagné des avantages. Et donc, ils sont incités à prendre les armes aussi pour avoir les mêmes avantages. Et d'autre part, ils se sentent souvent, c'était le cas au Nord-Mali, menacés par ces groupes armés qui ont conservé leurs armes. Il faut voir que c'est une minorité ethnique qui a pris les armes en 2011 et 2012. Ce sont des Touaregs et quelques tribus arabes du nord du Mali, et que la majorité de la population sur place est constituée de Sonrai, qui sont des Noirs sahéliens, ainsi que des Peuls et d'autres communautés. Et donc ces communautés, voyant ces groupes armés, qu'ils appellent quelquefois les peaux blanches, qui sont des Touaregs et des Arabes, se sont menacés, parce que traditionnellement, les Touaregs faisaient des razzias chez les populations environnantes. Et donc, de nouveau, ils ont vu ces Touaregs armés qui les menaçaient dans leur esprit, et ils se sont donc armés eux-mêmes. Donc, il y a eu une tribalisation armée qui s'est faite dans toute la région, et une partie, quand même, du chaos actuel que l'on observe au Mali vient du fait que ces groupes qui avaient été les premiers à prendre les armes n'ont pas été désarmés, et que le reste de la population s'est armée aussi, à la fois pour se défendre contre ces groupes armés et pour bénéficier des avantages acquis par l'accord d'Alger. Donc tout le monde s'est armé, en gros, dans la région, pour bénéficier de cette espèce de syndicalisme de la Kalachnikov, c'est-à-dire les avantages des seigneurs de la guerre qui avaient obtenu un accord avec le gouvernement, et aussi pour se défendre, parce qu'il y a une espèce d'insécurité générale qui s'est développée.
Le syndicalisme de la Kalachnikov, dites-vous, peut-être que cet accord d'Alger part aussi d'une mauvaise analyse de départ. Est-ce que c'est votre avis, Nicolas Normand? Notamment, l'analyse occidentale, elle fait la différence entre les djihadistes et les laïcs, pour le dire vite, et c'est le cas des Touaregs, que Paris donc a soutenu dans leurs revendications sécessionnistes. Est-ce que, oui, voilà, est-ce que l'accord de Mali est parti d'un malentendu. L'accord d'Alger, pardon.
Oui, je pense effectivement que c'est parti d'une erreur d'analyse, c'est-à-dire on a considéré que certains groupes armés étaient politiques et que d'autres groupes armés étaient terroristes. Donc il y avait des bons et des mauvais groupes armés. En réalité, de mon point de vue, tous les groupes armés étaient mauvais parce que dans une démocratie, ce qui est le cas du Mali, si l'on a des revendications qui sont réellement politiques, il y a des moyens légaux de les faire valoir, n'est-ce pas? Il suffit de former un parti politique. Dès lors qu'on recourt aux armes, on devient en réalité assimilable à des terroristes ou à des bandits dans une démocratie, de mon point de vue. Et ne pas désarmer tous les groupes armés était une erreur initiale de la force Serval qui a été envoyée par la France, la force militaire française qui a été envoyée en janvier 2013. Elle a fait le tri dans les groupes armés. Je crois aussi qu'elle avait besoin, c'est ce qu'elle explique, de s'appuyer sur une force locale pour combattre les djihadistes. Ils avaient identifié les bons et les mauvais, à tort, ils étaient tous mauvais de mon point de vue, mais pour combattre les méchants, les djihadistes, il fallait s'appuyer sur les bons groupes armés, d'où l'aide qu'ils ont apportée à ces groupes séparatistes. C'était essentiellement le MNLA à l'époque, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, constitué de Touaregs féodaux, qui était minoritaire même au sein des Touaregs.
Et Barkhane, l'opération Barkhane coopère par ailleurs avec deux milices Touaregs parce qu'elles connaissent bien le terrain. Mais est-ce qu'il n'est pas compliqué, Nicolas Normand, de demander à tous les groupes de désarmer quand ils sont eux-mêmes menacés par les troupes djihadistes qui, elles, ne faisaient pas partie de l'accord ?
Alors en fait, au départ, ces groupes n'étaient pas spécialement menacés par les djihadistes. Il y avait une prolifération, un début de prolifération des groupes armés. Il fallait, pour pacifier le nord du Mali, exiger, et c'est très important, à mon avis, c'est vraiment une erreur initiale majeure, il fallait exiger le désarmement de ceux qui se voulaient politiques et contraindre les djihadistes par la force aussi à se désarmer ou à se neutraliser.
Alors,
À partir du moment où on ne fait pas ça, on suscite quand même... effectivement, une situation où maintenant les groupes armés disent nous devons garder nos armes parce qu'il y a des djihadistes et on est rentré dans un cercle vicieux de confrontation.
Alors...
Et en fait, vous voyez qu'aujourd'hui, les djihadistes n'attaquent pas ces groupes armés qui ont signé l'accord d'Alger. Ces groupes armés ne sont jamais attaqués par les djihadistes. Les djihadistes attaquent les populations civiles et attaquent surtout les forces maliennes et les fonctionnaires maliens. Ils attaquent les professeurs dans les écoles, les représentants de l'État, pour faire une zone où l'État est totalement absent et créer une sorte de début d'émirat ou de zone sous contrôle des djihadistes.
Pour conclure, Nicolas Normand, il nous reste moins d'une minute. Il y a quand même sur place aujourd'hui l'opération Barkhane dont font partie les troupes françaises. L'opération Barkhane, la MINUSMA, enfin, il y a plein de troupes, un encombrement sécuritaire, dites-vous, qui ont quand même quelques victoires à leur actif. Mais quand un territoire est libéré, est-ce qu'il l'est pour de bon ? Est-ce que l'État malien reprend ses droits ?
Non, c'est-à-dire quand le territoire est libéré, effectivement, l'État malien n'est pas en mesure de mettre des sous-préfets, de faire élire des maires, de mettre des représentants de l'État. Et donc ce territoire n'est pas administré. Et en pratique, les djihadistes reviennent parce que 4500 soldats français ne peuvent pas couvrir un territoire immense. Et donc les djihadistes réoccupent le territoire libéré, ce qui explique très largement l'impossibilité pour Barkhane de vaincre ce phénomène terroriste.
Avec des nouveaux groupes armés qui apparaissent régulièrement, notamment au nord et au centre du Mali. Merci beaucoup Nicolas Normand d'avoir été avec nous ce matin. Le grand livre de l'Afrique, votre livre, a paru aux éditions Erol. Bonne journée.
Merci beaucoup.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Nouveau sur France Culture, la transition se conjugue au quotidien avec Hervé Gardette.
Réchauffement climatique, épuisement des ressources, érosion de la biodiversité, nous savons tous désormais à quoi nous sommes confrontés. Mais nous ne savons pas toujours quoi faire, ni comment. Pourtant, nos modes de vie sont en train d'être bouleversés par ce basculement. Tous les jours, dans les matins de France Culture à 8h45, je vous livre mes observations, mes réflexions et je vous fais part de mes lectures dans la transition.
Nouveau sur France Culture, la transition de lundi à vendredi à 8h45 dans les matins et sur franceculture.fr. Histoire, autrement sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Cette semaine, nous parlons cinéma et histoire, parce que le cinématographe est à la fois un objet historique et un vecteur d'histoire et de mémoire. Du Japon au Chili, en passant par la France, comment le cinéma écrit-il une histoire nationale ?
Le cours de l'histoire, de lundi à vendredi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, bonjour à toutes et bonjour à tous, et bonjour Guillaume
Et Herbert. Bonjour à vous aussi Julie Gacon, et bonjour à toutes et bonjour à tous.
C'est votre humeur du jour pour commencer Guillaume, faut-il prendre l'abonnement de trop ?
Mais oui Julie, je me suis posé la question au moment de trouver un airbag pour moto. Vous savez que ça existe, c'est très utile quand vous sortez du parking de Radio France et que vous ne regardez pas. Et bien maintenant, pour avoir un airbag moto et pour que celui-ci soit relié à un dispositif complexe de localisation, il faut un abonnement 10 euros par mois. Or, les modernes sont déjà blindés d'abonnements, et pas seulement au gaz et à l'électricité, abonnement au téléphone portable évidemment, mais aussi à un service de musique en ligne, à un service de VOD désormais, à un service de jeux vidéo, un abonnement pour le vélo, pour la voiture, pour les batteries de la voiture électrique. C'est probablement cela l'évolution du capitalisme. Vous ne possédez plus rien, vous louez tout, et ça suscite ce qu'on nomme en anglais « subscription fatigue », la lassitude de l'abonnement. Si vous y songez un instant, vous verrez donc comment ces abonnements ont envahi votre quotidien. Je pourrais aussi ajouter le cloud, vous savez, pour sauvegarder vos données, l'abonnement à Amazon Prime. La moitié des ménages américains louent le droit d'acheter auprès d'Amazon. Abonnement à des vestiaires privés, vous louez un certain nombre de tenues par mois en permanence. Dans ces conditions, on comprend donc qu'un peu plus de la moitié des Américains affirment aujourd'hui ressentir de la lassitude devant le nombre d'abonnements. Près de 60% ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi le contenu de leur vidéothèque, de leur discothèque est soumis à un abonnement, et un certain nombre d'entre eux refusent de prendre plus d'abonnements. Alors, consciente de ce souci, les sociétés s'apprêtent désormais à faire des bouquets d'abonnements, autrement dit des abonnements à des abonnements, la possibilité une fois pour toutes de s'abonner à tout, laquelle pourrait donner l'illusion donc que l'on s'abonne moins, car la grande peur du capitalisme, ce sont maintenant les abonnés absents, des personnes devenues incroyantes qui ne voudraient plus répéter en chœur « louez soi le capitalisme ».